Au cœur de l'actualité internationale cette semaine, l'Irak. Certaines régions sont encore aux mains de l'État islamique. La formation djihadiste a annoncé l'établissement d'un nouveau califat sur les régions conquises en Irak et en Syrie. Au nord du pays, les Kurdes réclament quant à eux leur indépendance. L'Irak semble donc plus que jamais au bord de la guerre civile et de la partition. C'est en tout cas la crainte que nous exprimait Mgr Louis Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens, tout en dénonçant l'immobilisme de la communauté internationale qui constate sans réagir l'avancée des djihadistes de l'État islamique et observe dans une relative indifférence la souffrance des populations irakiennes.
Il y a un grand danger d'une guerre civile, peut-être une guerre civile entre sunnites et chiites et autres, pour affaiblir tous ces groupes-là et à la fin dire, voilà, il n'y a pas devant vous que la division du pays en trois cantons. Moi, je me sens choquée et scandalisée par l'égoïsme et l'individualisme occidental. Alors, j'appelle tout le monde, j'appelle surtout les églises, les conférences épiscopales, les chrétiens, les communautés religieuses à faire quelque chose, à élever leur voix et dire ça et condamner tout ça.
Autre actualité marquante cette semaine, l'affaire de ces trois jeunes Israéliens enlevés et finalement retrouvés morts près d'Hébron, plongeant Israël dans une vive émotion, une émotion empreinte de colère. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a promis des représailles contre le Hamas qu'il accuse du meurtre de ces trois jeunes. Nombreux sont ceux qui craignent un embrasement de la région. Sur le plan politique, en tout cas, ce triple assassinat porterait un coup fatal à l'accord conclu entre le Fatah et le Hamas. C'est ce que nous expliquait Frédéric Ancel, professeur à Sciences Po Paris.
Mahmoud Abbas se trouve entre enclume et marteau. Aujourd'hui, les Israéliens lui disent « Tu sors de cette union avec les terroristes du Hamas, sinon on voit bien que tu ne veux pas faire la paix, on ne reviendra pas à la table des négociations. » Quant au Hamas, il continue à traiter le président palestinien de faible, de mou, parfois de lâche, précisément parce qu'il a renoncé à la violence voilà plus de 10 ans. Donc oui, cette formation gouvernementale unifiée palestinienne risque de voler en éclats maintenant.
L'Afrique de l'Ouest, sous la menace du virus Ebola, l'actuelle épidémie de fièvre hémorragique, la plus mortelle de son histoire, affecte la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria, totalisant 759 cas, dont 467 mortels. Les ministres de la Santé de 11 pays africains, ainsi que de nombreux experts internationaux, étaient réunis à Accra, au Ghana, afin d'examiner la mise en place d'un plan radical de lutte contre le virus, une nécessité selon Fadela Shaib, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé.
Une des recommandations de cette réunion, c'est vraiment l'importance que chacun des trois pays affectés par Ebola et les pays avoisinants vraiment prennent un leadership national et politique, parce que les pays affectés et les pays avoisinants ne doivent pas être laissés seuls pour gérer une préoccupation comme celle-là, alors que dans leur propre pays, ils ont aussi d'autres priorités de santé publique.
Restons en Afrique, au Nigeria, où pas une semaine ne se passe sans une attaque sanglante de Boko Haram. La secte islamiste s'en prend au village du nord-ouest du pays, tuant les villageois, brûlant les églises, sans que les forces de sécurité nigérianes ne puissent réagir. Face à cette situation toujours plus préoccupante, la conférence des évêques catholiques du pays propose aux fidèles une prière nationale, et ce pendant 6 mois. Le cardinal John Onayekan, archevêque d'Abuja, était à Rome cette semaine. Nous l'avions rencontré.
Le problème reste toujours qu'on n'a pas réussi à convaincre les gens qui font ces choses-là de mettre fin à ces atrocités. Et c'est ça que requiert toute la force du peuple nigérien. Je crois que c'est dans ce contexte-là qu'on doit poser tous les programmes de prière de l'Église que la conférence épiscopale du Nigeria a ordonné pour tout le monde.
L'affaire a fait la une de toute la presse française. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un ancien président est mis en examen. Nicolas Sarkozy est notamment soupçonné de corruption et de trafic d'influence actif et risque la prison. Cette mise en examen a lieu au moment où les rumeurs d'un retour politique de l'ancien président étaient de plus en plus fortes face au scandale qui mine l'UMP. Nous avions recueilli l'avis de Thomas Guénolé, politologue, auteur de Nicolas Sarkozy, chronique d'un retour impossible aux éditions First.
Alors je vous parle, Nicolas Sarkozy, il a 3 batailles en cours. Il a la bataille de l'opinion publique. Il a la bataille d'appareil sur qui sera le prochain président de l'UMP. Et là, il en est à hésiter encore entre y aller lui-même ou imposer à ses adversaires un candidat de compromis qui, lui, le satisferait. Et puis, il a la bataille judiciaire. Et la bataille judiciaire, c'est d'abord une bataille de procédure pour obtenir l'annulation de la mise en examen à chaque fois qu'il y en a une. Je rappelle que Maître Thierry Herzog, qui est l'avocat de Nicolas Sarkozy, est un excellent avocat. Dans l'affaire Bettencourt, il avait obtenu l'annulation de la mise en examen, ce qui est quelque chose d'absolument rarissime dans le fonctionnement du système judiciaire français.
L'Italie prenait cette semaine les rênes de la présidence de l'Union européenne, 6 mois pendant lesquels Matteo Renzi, le président du Conseil italien, veut promouvoir une Europe plus engagée pour la croissance et plus solidaire. Un véritable défi, quelques semaines après la vague des partis europhobes dans toute l'Union aux élections européennes. Ces élections, le jeune président du Conseil a remporté son premier succès électoral. Alors, à quel type de présidence peut-on s'attendre avec lui? L'analyse de Marc Lazare, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Italie.
Ce sera une présidence active, une présidence aussi très très tranchante en termes de communication. Il surfe sur la vague des 41% qu'il a eu aux élections européennes. C'est un résultat assez spectaculaire au niveau global de l'Union européenne. Donc il marque l'opinion publique, en tout cas du côté des décideurs. Mais en même temps, il a quand même beaucoup de handicaps. L'Italie ne va pas bien. Et puis il y a quand même dans tout le reste de l'Europe un certain type de cliché qui persiste sur l'Italie. Est-ce que ces Italiens sont vraiment sérieux? Donc beaucoup d'avantages, beaucoup d'armes dans sa main, mais aussi beaucoup d'obstacles à franchir.